Chapitre 58. Ce sont les mots qu'ils n'ont pas dits qui font les morts si lourds dans leur cercueil. Juin 1996. Cela faisait 6 mois que j'allais chez Sacha, un dimanche sur deux. Je venais de le quitter. J'avais encore de la terre sous les ongles. J'ai posé leur adresse sur mon tableau de bord. Un lieu-dit appelé La Biche au Chail, juste après Mâcon. J'ai roulé une trentaine de minutes. Je me suis perdue dans des chemins. J'ai fait des marches avant et des marches arrière. J'ai pleuré de rage. J'ai fini par trouver. Une petite maison au crépi fatigué et noirci, coincée entre deux autres, plus grandes et plus imposantes. On aurait dit une petite fille pauvre entre ses deux parents vêtus d'apparat. Et il y avait leurs deux noms sur la boîte aux lettres accrochée à la porte. G. Magnan, A. Fontanelle. Mon cœur s'est mis à paniquer. J'ai été prise de nausée. Il était déjà tard. J'ai pensé que j'allais être obligée de rouler de nuit pour rentrer à Malgrange et que j'avais horreur de ça. Le trac au ventre, j'ai frappé plusieurs fois. J'ai dû frapper fort. Je me suis fait mal aux doigts. J'ai vu la terre sous mes ongles. Ma peau était sèche. C'est elle qui a ouvert la porte. Je n'ai pas tout de suite fait le rapprochement entre la femme qui se tenait devant moi et celle qui posait avec un chapeau ridicule le jour d'un mariage sur la photo que Sacha avait glissée dans l'enveloppe. Elle avait beaucoup vieilli et grossi depuis que le cliché avait été pris. Sur la photo, elle était mal maquillée, mais elle était maquillée. Dans la lumière de cette fin de jour, sa peau était marquée par les années. Le dessous de ses yeux était violacé et une coupe rose courait le long de ses joues. « Bonjour, je m'appelle Violette Toussaint, je suis la mère de Léonine, Léonine Toussaint. » Prononcer le prénom et le nom de ma fille devant cette femme m'a glacé le sang. J'ai pensé, c'est sans doute elle qui lui a servi son dernier repas. J'ai pensé pour la millième fois, comment j'ai pu laisser ma fille de 7 ans partir là-bas? Geneviève Magnan n'a pas répondu. Elle est restée de marbre et m'a laissé continuer sans ouvrir la bouche. Tout en elle était fermé à double tour. Pas de sourire, pas d'expression. Juste ses yeux poisseux et injectés de sang posés sur moi. « Je veux savoir ce que vous avez vu cette nuit-là, la nuit de l'incendie. »« Pourquoi faire ?» Sa question m'a stupéfiée. Et sans réfléchir, j'ai répondu « Je ne crois pas que ma fille soit allée à 7 ans dans une cuisine pour se faire chauffer du lait. » »« Il fallait le dire au procès, ça ?» J'ai senti mes jambes trembler. « Et vous, Madame Magnan, qu'est-ce que vous avez dit au procès ?» J'avais rien à dire. Elle m'a soufflé au revoir et m'a claqué la porte au nez. Je crois que je suis restée longtemps comme ça, la respiration coupée, devant sa porte, à regarder la peinture écaillée et leur nom écrit sur un ruban en plastique, G. Magnan, A. Fontanelle. Je suis remontée dans la Fiat Panda de Stéphanie. Mes mains tremblaient encore. J'avais senti en parlant avec Swann le tellier que quelque chose n'était pas clair sur le déroulement des faits de cette nuit-là. Et ma rencontre avec Geneviève Magnan ne faisait que le confirmer. Pourquoi est-ce que ces gens paraissaient tous aussi ambigus les uns que les autres? Est-ce que c'est moi qui me faisais des idées? Est-ce que j'étais en train de devenir folle? Encore plus folle? Pendant le voyage du retour, je suis passée de la lumière aux ténèbres. J'ai pensé à Sacha et au personnel du château de Notre-Dame-des-Prés. J'ai pensé que la prochaine fois, dans 2 dimanches, j'irai au château. Je n'avais jamais eu le courage de passer devant. Pourtant, il n'était situé qu'à 5 kilomètres du cimetière de Brancion. Et puis je retournerai chez Magnan et Fontanelle et je donnerai des coups de pied dans leurs portes jusqu'à ce qu'ils finissent par parler. Je suis arrivée vers 22h37 devant la maison. J'ai juste eu le temps de me garer avant de fermer la barrière du 22h40. Quand j'ai poussé la porte, j'ai vu Philippe Toussaint qui s'était endormi sur le canapé. Je l'ai regardé sans le réveiller en pensant que je l'avais aimé il y avait longtemps. Que si j'avais eu 18 ans et les cheveux courts, je me serais jetée sur lui en lui disant « On va faire l'amour ?» Mais j'avais 11 ans de plus et mes cheveux avaient poussé. Je suis allée m'allonger sur mon lit J'ai fermé les yeux sans trouver le sommeil. Philippe Toussaint est venu se glisser dans le lit au milieu de la nuit. Il a maugréé « Tiens, t'es rentré !» J'ai pensé « Heureusement, sinon qui aurait baissé la barrière du 22h40 ?» J'ai fait semblant de dormir, de ne pas l'entendre. J'ai senti qu'il me reniflait, qu'il cherchait l'odeur de quelqu'un d'autre dans mes cheveux. La seule odeur qu'il a dû trouver, c'était celle du parfum de synthèse de la Fiat Panda. Il a très vite ronflé. J'ai pensé à une histoire de graines que Sacha m'avait racontée. Il avait essayé de planter des melons dans son potager, ils n'avaient jamais poussé. Il avait essayé 2 années de suite, impossible. Les melons refusaient de pousser. L'année suivante, il avait jeté le reste des graines de melons aux oiseaux. Plus loin, à l'arrière du potager, là où s'amoncelaient des pots, des râteaux, des arrosoirs et des lessiveuses. L'un de ces oiseaux, étourdi ou espiègle, avait dû rapporter une des graines dans son bec et l'avait fait tomber au milieu d'une allée du jardin. Quelques mois plus tard, une belle plante avait poussé et Sacha ne l'avait pas arrachée, juste contournée. Elle avait donné 2 beaux melons, bien gros, bien sucrés. Et chaque année, elle en avait redonné 1, 2, 3, 4, 5. Sacha m'avait dit « Tu vois, ce sont des melons qui viennent du ciel, c'est ça la nature, c'est elle qui décide. » Je me suis endormie sur ces mots. J'ai rêvé d'un souvenir. J'emmenais Léonine à l'école. C'était le jour de la rentrée au CP, nous longions les couloirs, sa main dans la mienne. Puis elle l'avait lâchée parce qu'elle était grande maintenant. Je me suis réveillée en hurlant. « Je la connais! Je l'ai déjà vue !» Philippe Toussaint a allumé la lampe de chevet. « Quoi, qu'est-ce qu'il y a ?» Il s'est frotté les yeux, m'a regardé comme si j'étais possédée. « Je la connais! Elle travaillait à l'école, pas dans la classe de Léonine, dans celle d'à côté !»« De quoi ?»« Je l'ai vue! Après le cimetière, je suis passée chez Geneviève Magnan !» Philippe Toussaint s'est décomposé. « Quoi ?» J'ai baissé les yeux. « J'ai besoin de comprendre. » De rencontrer les gens qui étaient au château de Notre-Dame-des-Prés cette nuit-là. Il s'est levé, a fait le tour du lit, m'a attrapé par le col. J'ai manqué d'air quand il m'a soulevé de terre et s'est mis à hurler. « Tu commences à nous faire chier! Si ça continue, je te fais enfermer, tu m'entends? Et je te préviens, tu retournes plus là-bas, tu m'entends? Plus jamais tu ne refous les pieds là-bas !» Avec les années, il m'avait laissé plonger dans une solitude sans fond, un puits noir. J'aurais pu être quelqu'un d'autre, me faire remplacer, engager une intérimaire pour baisser et élever la barrière, faire les courses, le déjeuner et le dîner, laver son linge et dormir du côté gauche du lit. Il n'aurait rien senti, rien vu. Jamais il ne m'avait bousculé ni menacé. En faisant cela, il me ramenait à moi. Je redevenais moi. Le lendemain matin, je suis passée chez Stéphanie pour lui rendre les clés de la Panda. Le lundi, le casino était fermé. Elle vivait seule dans la grande rue, au premier étage d'une maison. Elle m'a fait entrer et servit un café dans un mazagran. Elle portait un long t-shirt à l'effigie de Claudia Schiffer et m'a dit « Lundi à la maison, c'est jour de ménage. » Ça m'a fait drôle de voir sa tête à elle au-dessus de celle du top modèle. Pourtant, c'est sa tête à elle qui m'a émue aux larmes. Sa bouille ronde, ses bonnes joues rouges, ses cheveux filasses. Je t'ai fait le plein. Oh ben merci. On dirait qu'il va faire beau. Oh ben oui. Il est bon ton café. Mon mari ne veut plus que j'aille au cimetière de Brancion. Ah bon ben, quand même. Hein. C'est quand même pour aller voir ta gosse. Hein. Oui, je sais. En tout cas, merci pour tout. Oh ben c'est rien. Si Stéphanie, c'est tout. Je l'ai serrée dans mes bras. Elle n'a pas osé bouger. Comme si jamais personne ne lui avait témoigné la moindre marque d'affection. Ses yeux et sa bouche se sont arrondis encore plus que d'habitude. 3 soucoupes volantes. Stéphanie resterait toujours une énigme, l'extraterrestre du casino. Je l'ai abandonnée, les bras ballants, au milieu de son salon. Ensuite, j'ai repris la grande rue et je me suis dirigée vers l'école primaire. Comme dans la chanson « Du côté de chez Swann », j'ai refait le chemin à l'envers, celui que j'empruntais chaque matin avec Léo. Dans son cartable, la boîte Tupperware prenait plus de place que ses livres et ses cahiers. J'avais cette obsession de lui faire des goûters gargantuesques pour qu'elle ne manque de rien. parce que j'avais ce vide qui me restait des familles d'accueil, quand nous partions en autocar avec l'école, que les autres avaient des chips, des barres de chocolat, des sandwichs au pain de campagne, des bonbons et des boissons pétillantes dans leur sac à dos. Moi, je ne manquais de rien, mais il n'y avait aucune fantaisie dans mon sac en plastique. Les filles de l'assistance se contentent de peu. Ce n'était pas le fait d'avoir moins qui me chagrinait, c'était de ne pas pouvoir partager mon déjeuner frugal, d'avoir juste le compte. Je voulais donner à Léonine la chance de partager avec les autres. Ce ne sont pas les enfants qui m'ont troublée quand je suis entrée sous le préau, mais les odeurs, celles de la cantine, un bâtiment attenant à l'école et les couloirs bondés. C'était l'heure du déjeuner. Je venais chercher Léonine à l'heure du déjeuner, et elle me disait souvent « T'as vu, ça sent pas très bon la cantine, maman. Je suis contente de rentrer chez nous. » Sur l'échelle de la douleur, si cette saloperie d'échelle existe, pénétrer dans l'école de Léonine a été plus difficile que d'entrer dans le cimetière. À Brancion, ma fille était morte parmi les morts. Dans l'enceinte de son école, elle était morte parmi les vivants. Les enfants qui avaient été les camarades de Léonine n'étaient plus là. Ils venaient de rentrer au collège. Je n'aurais pas supporté de les croiser, de les reconnaître sans les reconnaître vraiment. Les mêmes silhouettes avec l'option « vie » en plus. Des jambes de sauterelle, les traits moins poupins, des appareils en ferraille dans la bouche, les pieds dans des baskets de géant. Les poches vides, j'ai longé les couloirs. J'ai pensé que Léonine n'aurait plus voulu que je lui tienne la main pour aller jusqu'à sa classe. Une maman m'avait dit qu'une fois qu'ils entraient au collège, on les perdait un peu plus chaque année. Oui. Et quand ils partaient en colonie de vacances, on pouvait les perdre d'une traite. Léonine appelait sa maîtresse de CPCE1, Mademoiselle Claire. Quand la douce Claire Berthier, penchée sur des cahiers, a relevé la tête et m'a vu pénétrer dans sa classe, elle a pâli. Nous ne nous étions pas revus depuis la disparition de ma fille. Ma présence l'a mise mal à l'aise. Si elle avait pu se cacher dans un trou de souris, elle l'aurait fait. La mort d'un enfant encombre les grands, les adultes, les autres, les voisins, les commerçants. Ils baissent les yeux, vous évitent, changent de trottoir. Quand un enfant meurt, pour beaucoup, les parents meurent avec. Nous avons échangé un bonjour courtois. Je ne lui ai pas laissé le temps de parler. J'ai tout de suite sorti la photo de Geneviève Magnan, celle où elle portait son chapeau ridicule. Vous la connaissez ? Surprise par ma question, l'institutrice a froncé les sourcils et fixé la photo en me répondant que ça ne lui disait rien. J'ai insisté. Je crois qu'elle a travaillé ici.
Ici ? Vous voulez dire à l'école ?
Oui, dans une classe voisine. Claire Berthier a reposé ses beaux yeux verts sur la photo et a détaillé le visage de Geneviève Magnan plus longtemps.
Ah, je crois que je me souviens. Elle était dans la classe de Madame Piollet, avec les grandes sections de maternelle. Elle est arrivée en cours d'année. Elle n'est pas restée très longtemps ici.
Merci. Pourquoi me montrez-vous cette photo? Vous recherchez cette dame?
Non, non, je sais où elle habite.
Claire m'a souri comme on sourit à une folle, une malade, une veuve, une orpheline, une alcoolique, une inculte, une mère qui a perdu son enfant.
Au revoir, merci.